peut-être commencer, hein. Il est 11h30. Vous êtes assez nombreux. Bon ben, bonjour à tous et puis merci d'être là pour ce débat sur Internet, nouvel espace démocratique. Je voudrais commencer en disant à quel point je trouve important que dans un colloque comme celui-ci, on pose cette question, parce que d'abord c'est assez rare. Et je pense que si ce colloque avait eu lieu il y a 5 ans, mettons, on n'aurait peut-être pas posé la question d'Internet. C'est dire à quel point Internet prend une place importante aujourd'hui dans la société. Et le problème, c'est que souvent, quand on pose des débats qui ont trait à Internet, à l'utilisation d'Internet, aux usages du web, on a tendance à poser les débats de façon dichotomique. On le voit encore aujourd'hui quand on parle de la loi Hadopi. Les débats sont très virulents, qu'ils soient dans la société ou qu'ils soient même sur le net. Et souvent posé de façon binaire. Donc l'idée, c'est ici de sortir de la caricature pour essayer de s'intéresser aux usages du net, de comprendre le monde qui advient pour dépasser les préjugés. Et comme un petit peu de publicité ne fait jamais de mal, c'est ce qu'on essaye de faire à France Culture toutes les semaines dans l'émission Place de la Toile sur les usages des nouvelles technologies, en particulier les usages d'Internet. C'est tous les vendredis de 11h à midi. Voilà qui est dit. Maintenant, sur la question posée. Alors, Internet, deux points, nouvel espace démocratique, point d'interrogation. On a envie de s'intéresser et de s'interroger même sur tous les termes posés. Nouvel espace démocratique. Peut-être pas sur les points d'interrogation, quoique, on y reviendra, puisque cette question provoque une pluie d'interrogations. Mais peut-être on peut commencer par définir par défaut cette question, c'est-à-dire qu'on a décidé avec les trois participants qui sont là de ne pas aborder la question de façon politique, au sens où il ne s'agit pas de poser la question de savoir si Internet change la pratique démocratique. C'est ce qui a par exemple été fait dans la table ronde précédente, ici même animée par Loïc Blondiot, mais plutôt de savoir si l'espace qu'est Internet, alors si tant est qu'Internet est un espace, c'est un outil, c'est un média, peut-être qu'il faudrait mieux parler du web, enfin de la toile, plutôt que d'Internet, mais de se demander si Internet est cet espace qui permet le débat démocratique. Pierre-Rosan Vallon définissait la démocratie, il l'a défini encore, mais il l'a dit hier sur France Culture, comme à la fois une forme de société et un régime politique. Alors on va plutôt s'intéresser à la forme de société que prend Internet. Et puis Claude Lefort définit la démocratie en disant que c'est chacun en relation avec tous, un endroit où l'information circule, où la légitimité de la différence des opinions existe, avec l'importance du conflit. Alors est-ce que Internet répond à tous ces critères? C'est une partie de la question, puisqu'Internet est un lieu d'échange et de délibération. C'est une question. Un lieu d'échange, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Un lieu de délibération, c'est la question qu'on va poser. On va se demander aussi si ce qui le définit, c'est l'agora, dans son double sens de lieu de rassemblement public, de place où se tiennent les débats. Alors, peut-être une agora plus démocratique, plus égalitaire que l'était l'agora athénienne, mais est-ce qu'Internet est une nouvelle agora planétaire? Et puis un moyen d'expression, mais aussi un moyen d'action qui est capable d'influencer les capacités de décision collective. Et puis enfin, une chance ou une menace pour la démocratie. Je pense que c'est une question qui est quand même importante, même si cette question soulève souvent des questions, là encore, peut-être caricaturales, mais il faut quand même poser un certain nombre de questions qui ont trait à celle-ci, savoir si c'est un enrichissement pour la démocratie ou si elle comporte un certain nombre de dangers, de risques. Donc, est-ce que c'est le levier de l'éclatement de l'opinion publique? Est-ce que c'est le ferment de nouvelles pratiques délibératives? Alors, vous le voyez, il y a vraiment une pluie, voire une tempête d'interrogations qui sont soulevées par cette question initiale que nous a demandé l'organisation du forum. Alors maintenant, sur le déroulement de ce débat, on a pensé de façon collégiale, avec les participants ici même, que ce serait bien de commencer par une sorte de topo introductif de chacun, d'une quinzaine de minutes, je vais même dire de 15 minutes. J'ai le chronomètre sous les yeux, donc il faudra respecter ce temps de parole pour que la salle puisse intervenir après. Je vous demanderai bien évidemment de ne pas intervenir pendant les propos de chacun. Mais ensuite, on ouvrira la parole à la salle pour une première salve d'interrogations, de questions que vous auriez à poser. Et puis, si 4 ou 5 questions dégagent des tendances, des points communs, on pourra ouvrir le débat à partir de vos questions. Puis on reprendra, nous, la parole pour un certain nombre de points de débat que que moi j'ai inscrit comme ça sur ma fiche. Et puis on terminera par une deuxième salve de questions avant de conclure le débat. Présentation de nos invités, là je lis ma propre fiche, donc présentation des invités, Patrice Flichy, qui est à ma droite au bout, est professeur de sociologie à l'Université Paris-Est, il est directeur de la revue Réseau, Communication, Technologie et Société, c'est une revue qui s'intéresse aux liens entre la technologie, et je dis nouvelle mais pas seulement la nouvelle, la technologie, la société et la communication. Qui est une revue dont le dernier numéro est consacré précisément au Web 2.0, qu'a coordonné un autre invité ici présent, qui est Dominique Cardon. Dominique Cardon est sociologue au laboratoire recherche et développement de France Télécom. C'est un sociologue qui travaille les mains dans le cambouis, j'aurais tendance à dire, sur le terrain. Il a travaillé sur les usages du net, il a fait beaucoup d'enquêtes sur le fonctionnement de Wikipédia, le fonctionnement de Facebook, sur la dernière enquête s'intitulait Sociogeek, c'est peut-être pas la dernière enquête d'ailleurs, mais enfin l'une des dernières enquêtes s'intitulait Sociogeek et réfléchissait aux pratiques de pudeur sur Internet. Il réfléchit aussi aux jeunes, enfin un certain nombre d'enquêtes de terrain dont il sera peut-être amené à parler. Et puis Daniel Bougnou n'est pas du tout, enfin pas en tout cas, spécialiste de la communication, il est philosophe. Il est philosophe, il est professeur émérite à l'université Stendhal de Grenoble. Il a récemment publié en 2006 à la découverte La crise de la représentation, qui montre bien qu'il réfléchit à ces notions de démocratie représentative et de démocratie participative. Et puis il est membre également de la revue Medium, qui est la revue dirigée par Régis Debray. Quant à l'ordre maintenant du passage, nous avons aussi défini cet ordre de passage de façon collégiale, mais c'est un ordre assez arbitraire. Disons qu'on s'est dit qu'on avait ici même un philosophe, un sociologue plus théorique, disons, qui réfléchit en philosophe, qui est Patrice Flichy, et puis un sociologue qui procède par enquête, par étude. Et donc, on voulait vous proposer un ordre passage qui va du général au particulier, de la théorie à la pratique. Et donc, on va commencer par Daniel Bougnou, à qui je cède immédiatement la parole.
Merci, Caroline. Bien, je vais aussitôt préciser que je suis dans ce débat plutôt le profane de service, c'est-à-dire que quoique médiologue, entre guillemets, auprès d'un homme, d'ailleurs, Régis, qui s'est à peine manipulé sa boîte mail, j'ai une compétence assez limitée, je me sers de façon basique d'Internet. Néanmoins, en médiologie, nous avons l'habitude de dire que le tournant actuel est très important, le passage, savoir penser le passage de la graphosphère, l'ordre du livre, et tout ce qu'a impulsé dans notre culture le livre pendant 4 ou 5 siècles, et puis aujourd'hui la numérosphère, et je pense que ce glissement de civilisation est tout à fait capital et qu'il y a mille façons d'en parler. Et donc, je participe à ce débat à ce titre-là. C'est pour essayer de vous dire ma propre appréhension du glissement, disons, de la graphosphère, ce qu'on faisait bien avant, à la vidéosphère et à la numérosphère, en fait, c'est-à-dire tout ce qui vient par le numérique. Alors, évidemment, tout cela soulève des questions absolument passionnelles. Internet est un sujet de passion. Alors, nous sommes ici pour atténuer ou refroidir la passion. Il se peut qu'elle réémerge chemin faisant. Et après tout, il ne faut pas la craindre absolument. Je sais à quel point ces questions sont sujets à des débats tranchés, parfois absurdement binaires et pour ou contre, ce que, bien sûr, nous éviterons ici. Alors, je mettrai volontiers notre rencontre, ma parole en tout cas, sous l'autorité d'un très grand personnage, puisqu'il s'agit de Borges, qui est mort bien avant le développement de la toile. Mais le génie d'un écrivain, d'un grand écrivain, est toujours d'anticiper ce qui vient. Et dans une nouvelle de la revue, de la collection, enfin du recueil fiction, cette nouvelle, La bibliothèque de Babel, date de 1941. Borges imagine donc une bibliothèque où tout est absolument écrit par combinaison de 25 chiffres de base, 25 lettres de base. Et donc tout le trésor mental et des représentations de l'humanité se trouve inclus dans la bibliothèque de Babel. Alors c'est un labyrinthe infini, la bibliothèque de Babel, que nul ne peut parcourir de façon savante. Et voici ce qu'écrit Borges, deux lignes seulement, de cette remarquable nouvelle. « Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. » L'extase, n'est-ce pas, dont parlait Finkielkraut, par exemple, de façon très critique. Et puis, une page plus loin, « À l'espoir éperdu succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. » Donc nous ne tomberons ici ni dans le bonheur extravagant, ni dans la dépression excessive, mais on voit bien le problème de la bibliothèque de Babel qui se retrouve sur Internet, comment cheminer méthodiquement à travers les informations. Et puis alors un autre patronage, je pense à la phrase de Marx, parce que c'est au fond cette phrase qui a motivé ma propre écriture de la crise de la représentation, et je modifierai légèrement cette phrase qui est la plus connue de Marx. Jusqu'ici, les philosophes se sont contentés de représenter le monde. Marx dit d'interpréter le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Eh bien, ma crise de la représentation, c'est justement pour penser à quel point la représentation n'est plus suffisante. Et à quel point cette représentation a dominé, comme d'ailleurs une conquête anthropologique majeure, la représentation, c'est le propre de l'homme. Et la graphosphère, les livres, le théâtre, où nous sommes en ce moment, mille médias divers ont, au fil des siècles, favorisé, rendu plein d'énergie la représentation. Et avec Internet, peut-être, on n'est plus dans la représentation. C'est ce que j'ai envie de penser ou de travailler aujourd'hui. Et au fond, c'est ce qui me travaille en tant que comédiologue et j'ai envie de réfléchir là-dessus. Même si je ne suis pas spécialiste d'Internet, je sens qu'avec Internet surgissent des formes de présence inédites et de participation qui font qu'on n'est plus dans la représentation ni dans la démocratie représentative. Et je voudrais argumenter ce point en partant du concept de démocratie. Puisque ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est en effet une pensée très éparse, d'ailleurs très difficile à synthétiser, de, au fond, qu'est-ce que l'idéal démocratique, qu'est-ce qu'on entend par démocratie. Et pour alimenter notre débat, je dirais qu'il y a au moins autour de la démocratie un nuage de mots-clés pour moi qui est l'invention, la réinvention, réinventer la démocratie. La démocratie est un régime en perpétuelle invention de soi. Il y a bien sûr la représentation comme scène parlementaire, électorale. Il y a l'autonomie, il y a l'immanence et la passion égalitaire. Et il y a un certain nivellement des conditions, une certaine égalité des conditions qui vient par ce qu'on appelle le régime démocratique. Mais si on fait de la représentation le cœur de la démocratie, alors, comme le dit bien Rosan Vallon, et moi j'étais très lecteur très assidu de notamment la contre-démocratie, alors la représentation démocratique est par définition toujours censitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de représentants que de représentés. Et donc il y aura toujours une part d'ombre, un cône d'ombre, la démocratie représentative est une pyramide, et bien sûr la base ne passe pas tout entière dans le sommet de la pyramide, donc il y a une représentation très inégalitaire, très défavorable à certains, des minorités invisibles, le règne de la majorité qui écrase la minorité, etc. Nous connaissons, je crois, aujourd'hui, grâce à Rosan Vallon notamment, ces questions. Et donc, Internet, à l'évidence, est une première correction. Et dans la contre-démocratie, Rosan Vallon alimente justement le défense et l'illustration d'Internet en montrant à quel point Internet est excellent pour corriger les défauts censitaires de la démocratie représentative. Et que, à la base, quantité de coordination, d'associations, d'ONG, d'individus peuvent protester, surveiller, assurer une fonction de vigilance, de veille critique, de veille civique et donc démocratique pour corriger les trous noirs des médias, qui sont de toute façon, les médias cartographient le monde de façon extrêmement lacunaire et imparfaite. Et donc Internet est évidemment une correction à tout ce qui reste imparfait dans les anciens ordres de la représentation. Mais Internet ne fait pas que perfectionner la représentation. Je crois qu'Internet précisément nous fait glisser vers des régimes de présence tout à fait intéressants à percevoir et à distinguer, et notamment par ce nivellement des conditions qui fait que les émetteurs deviennent également des récepteurs. Pardon, les récepteurs deviennent également des émetteurs. C'est-à-dire que tout lecteur, par exemple, est invité à être un auteur. Ou bien profane est invité à manifester une certaine forme d'expertise. Et donc les conditions qui, dans un ordre ancien, au fond lié à la graphosphère, hiérarchisait parfois très durement les experts, les profanes, les émetteurs, les récepteurs, les auteurs, les lecteurs, eh bien, il y a relatif, je ne dis pas que c'est une mise à plat, une mise à niveau, mais il y a un nivellement relatif, une hiérarchie enchevêtrée qui surgit entre ces ordres auparavant verticaux, rigides, et je crois qu'on arrive à une relative égalisation des conditions dans les pratiques ouvertes par la toile. Alors, ce serait mon premier point pour argumenter la question « Internet est-il un espace démocratique ?» Ce serait qu'au fond, il y a une intelligence du réseau en tant que réseau, qu'être intelligent, c'est d'ailleurs une capacité à faire des liens, à entrer en résonance avec le réseau, avec un réseau. Et donc cette intelligence du réseau, qui est, je crois, la meilleure définition de l'intelligence, comme faculté de mise en lien, faculté de mise en réseau, eh bien c'est une intelligence à la fois collective et connective. Et ça, c'est la grande originalité, je crois, de l'ordre qui monte face au livre, face à la graphosphère, c'est que non seulement on chemine de façon plus horizontale qu'avant, mais il y a sur ce réseau un appel et un pari et une confiance envers l'expertise de chacun. Une espèce de, pas de démocratie de l'intelligence, oui, du génie, enfin de la curiosité, du partage, et de se dire que grâce à une meilleure capillarité du réseau qu'assuraient de façon très imparfaite les anciennes technologies du savoir ou de la transmission, eh bien, avec cette capillarité plus fine, il y a donc de meilleures chances de branchement, de connexion, de basculement, d'échange, de partage. Partage, c'est le maître mot, je crois, de la démocratie, et c'est le maître mot de la toile. Donc, mon premier motif d'optimisme touchant l'émergence d'Internet, ce serait cette intelligence collective, connective du réseau, au fond, cette intelligence des foules sur lequel parie Internet. Alors, la correction à apporter à cela est de dire, évidemment, que, contre un optimisme, disons, qui serait béat ou bête, c'est de dire que l'Internet n'est pas un empire dans un empire. Ce n'est pas un autre monde dans lequel on sauterait à pieds joints et qui ferait qu'on s'exempterait des contraintes, des violences, du vandalisme, parfois, de l'incivilité du monde d'avant. Évidemment, Internet hérite de de tous les défauts, de toutes les violences, de toutes je pense au vandalisme. Bon, il y a des vandales sur la toile, bien sûr, mais comme il y en a dans la vie civile. Et donc, ce n'est pas une île d'utopie qui serait à l'abri du monde social. Internet est bien sûr perfusé en permanence. L'échange entre le monde réel et le monde virtuel est en permanence actif et dans les deux sens. Mais justement, dans les deux sens. Donc, il y a en effet des risques permanent sur la toile. Alors certains ont aggravé ces risques. Il y a 3 ans, au forum précédent ici de Pierre-Rosan Vallon, j'étais à une tribune, et c'est avec Bernard Manin, et il insistait, lui, sur le risque d'autisme qui naît par les navigations sur lesquelles, disait-il, on ne fait jamais que rencontrer ses semblables. Et ce risque a été évoqué hier, je crois, par Patrice Flichy, puisque nous avons fait l'émission de France Culture à 11h sur ce même sujet d'aujourd'hui. Et le risque d'autisme qui naît du fait que les pairs vont vers les pairs, les semblables cherchent le semblable, et donc on peut faire sur Internet des parcours d'évitement, et donc on peut favoriser le narcissisme. Donc Internet est certes une formidable fenêtre ouverte sur le monde, mais c'est le monde des autres, mais c'est aussi un miroir dans lequel chacun cherche d'abord son semblable et cherche au fond à capitaliser ou à protéger ses propres opinions, ses propres choix culturels, idéologiques, ses propres consommations, élargies parfois à des communautés de consommateurs. Mais au fond, il y a toute une description d'Internet qui en fait le royaume des petits, non pas égaux, E-G-A-U-X, mais le tout à l'ego, au sens du moi d'abord, ou de ma communauté d'abord, et qui fait qu'on préférerait systématiquement sur le net rencontrer ses semblables plutôt qu'affronter, en effet, le monde des autres ou d'autres cultures, d'autres opinions. Alors, je ne sens pas cela, et j'aurais tendance à le corriger en disant qu'il est difficile de publier sur Internet par un blog ou dans un forum sans rencontrer une opposition, une contradiction. Je pense que c'est un espace, certes, qui peut favoriser l'autisme, voire, enfin, en tout cas, une certaine homophilie, comme disait Bernard Manin, c'est-à-dire le semblable cherche le semblable, l'homophilie, mais ça favorise aussi la contradiction. C'est-à-dire que c'est un espace de rivalité, c'est un espace d'émulation, c'est un espace donc d'ouverture, et moi j'insisterai davantage sur l'ouverture que sur la fermeture, même si les deux, bien sûr, sont présents en permanence sur la toile. Mon troisième point, c'est qu'il ne faut pas penser à Internet comme quelque chose qui ferait mieux ce qui existait déjà, comme un média qui perfectionnerait des médias existants. Et il ne faut pas avoir du média une conception de la transparence du véhicule par rapport au contenu. C'est-à-dire de dire le média, après tout, il est neutre et puis il véhicule, bon, sans changement, une opinion, un désir, un choix, une idée, etc. Ce qui est très fascinant pour moi dans Internet, c'est que c'est un média, certes, mais c'est d'abord un médium. Et au fond, en médiologie, avec Debray, nous raisonnons là-dessus. Quand le média devient médium, c'est-à-dire environnement, c'est-à-dire que le médium façonne profondément les catégories viables dans l'ancien régime médiatique. C'est-à-dire ce qui était façonné par la graphosphère va être refaçonné par la numérosphère. Et donc il ne faut pas raisonner en termes de ce qui est perdu. Parce que, évidemment, d'un point de vue de l'ancienne sphère, alors, Internet est un désastre. Par exemple, si on cherche l'ancienne presse sur le réseau, alors on dit que le réseau ne peut que dégrader l'ancienne façon de faire du journalisme. Si on cherche les œuvres au sens littéraire, qui moi m'intéresse beaucoup, la littérature sur le réseau, alors il n'y a plus d'œuvres. En tout cas, il n'y a plus d'auteur, parce que l'auteur, bon, il est collectif, il est, les messages sont altérés en permanence par leur propre circulation. Si on cherche l'école sur le réseau, l'ancienne école, alors, là encore, tous les tenants de l'ancienne école vont dire, mais c'est désastreux, ces circulations, le savoir à la carte, cette anarchie, cette absence d'autorité, que devient l'autorité sur la toile, etc. Donc on peut avoir une vision, une description très négative si on se laisse piéger par les anciennes catégories en les traitant comme fixiste. Si on a une vision de la culture arrêtée à l'instant T, alors effectivement, on ne voit dans Internet que des dégradations, voire du vandalisme d'anciennes institutions respectables et gravées dans le marbre. Mais au contraire, n'est-ce pas, ce qui est très intéressant avec Internet, c'est à quel point ça modifie nos catégories. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une critique de la raison numérique, qui me paraît pour un philosophe une tâche très intéressante dans le cadre d'Internet. Voir comment la notion d'espace, de temps, de personne, de sujet, de communauté, sont absolument modifiés si on pense à comment cela existait dans l'ancienne graphosphère, et la notion de représentation sont profondément modifiés par les nouveaux formats, rythmes et logiques du média-médium Internet. Donc voilà une question pour moi philosophique centrale, n'est-ce pas ? Comment le médium nous tire vers la présence alors que le média nous tirait vers la représentation, et être attentif à ce passage du média au médium, c'est-à-dire à une activité très virulente, une logique très créative du nouvel espace et des nouveaux outils disponibles par la toile. Alors je crois qu'il me reste 5 minutes, je ne vais pas trop prendre de temps, mais vous me calerez, Caroline, sur les 15 minutes. Je crois que je passais au moins la moitié de mon propos, 10 minutes. Ça fait 15. Ah bon, alors voilà. Donc, alors, par exemple, la vérité devient pertinence. Voilà. Ce virage est très intéressant pour un philosophe. Comment le régime de la pertinence remplace l'ancien régime de la vérité. Pertinence veut dire, pour moi, just in time et en contexte. Voilà. Une vérité est pertinente quand elle est bonne pour moi, just in time et contextuellement porté par l'occasion de son énonciation. Alors voilà, il y a donc des valeurs de coopération, de partage. Je crois que la valeur dominante sur le réseau, c'est, et la coopération vient sur le réseau par les gens qui veulent traiter le réseau comme la valeur. C'est ça le point pour moi principal, c'est que la valeur n'est plus dans un ciel transcendant, elle est dans l'entretien même de l'outil qui est notre bien commun et qui est le réseau lui-même. Donc il y a des étiquettes, des morales, il y a des codes, il y a des standards, il y a des normes, il y a des lois sur le réseau qui émergent du fonctionnement même de l'outil. Et si on parle de Wikipédia tout à l'heure, eh bien, je dirais un mot à ce sujet qui me paraît un exemple évidemment de choix pour cette logique, cette éthique de la coopération et d'une coopération constructive, d'une coopération positive. Et pour terminer, donc, je dirais que la culture qui naît n'est pas une culture seulement de contenu. C'est que nous apprenons, en effet, à être des bidouilleurs ou des opérateurs des anciens médias. On se laissera moins crétiniser par les images de presse. À partir du moment où, sur Photoshop, on peut soi-même bidouiller ses propres images. On se laissera moins gaver par les médias de la graphosphère. À partir du moment où, sur la vidéosphère, on peut éditer, ou sur la numérosphère, on peut éditer ses propres messages. Et avec des stratégies éditoriales, de transmission, de ciblage, de formatage, de rythme, etc. Donc, nous acquérons une expertise technique. Et donc, cette relative expertise, qui est très, très inégalement répandue, fait de nous des individus moins suggestionnables, moins manipulables. Là, je pense qu'il y a aussi un phénomène très intéressant à souligner, la compétence technique qui vient par cette toile dans la sphère privée de chacun. Bon, j'aurais mille autres choses à dire, mais si c'est 15 minutes, j'arrête là, et il y aura bien d'autres choses à discuter ensuite.
Merci Daniel, d'autant que, effectivement, dans ce que vous avez dit, moi j'ai relevé au moins trois thèmes qui peuvent être des thèmes de débat. Un premier thème qui est sur Internet comme espace de contre-démocratie, pas seulement un espace de démocratie. Un deuxième thème qui est évidemment celui qui fait beaucoup discuter, qui est cette question de l'égalisation des conditions, de l'horizontalisation, du renversement de la hiérarchie et du rapport entre experts et profanes, qui peut déboucher sur un nivellement, qui peut déboucher sur un relativisme, donc on y reviendra. Et puis le troisième terme du débat que vous avez évoqué, Daniel, c'est cet espace qui peut être vu comme un univers homogène, voire narcissique, où chacun va rencontrer son proche avant d'aller rencontrer l'autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut débattre. Je passe tout de suite la parole à Patrice Fléchy.
Merci, Caroline. Pour ses pères fondateurs, Internet s'opposait de façon définitive aux médias. Finalement, on trouve un certain nombre de textes écrits au début des années 90 nous disant « les médias vont disparaître ». Les médias vont disparaître parce que, avec Internet, chacun pourra enfin prendre la parole. Deuxième vision de ses pères fondateurs, l'idée que Internet allait permettre d'inscrire cette prise de parole dans un débat. Et Al Gore, au début de la présidence Clinton, dans un discours fameux, nous disait « Nous entrons dans un nouvel âge athénien de la démocratie ». Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ça peut être intéressant de faire un petit peu un bilan. Est-ce que vraiment nous sommes entrés dans ce nouvel âge athénien de la démocratie ? Est-ce qu'il y a vraiment une libre expression généralisée sur Internet ? Et est-ce qu'à travers le débat se construit une nouvelle opinion publique ? C'est un petit peu ces deux points que je voudrais examiner avec vous. Tout d'abord, libre expression. Je crois qu'incontestablement, ça s'aperçoit que accède à la parole publique toute une série d'individus, toute une série d'organisations qui ont du mal à accéder à cette parole publique sur les médias traditionnels. Par exemple, des petits partis, toute une série d'organisations citoyennes de la société civile qui ont trouvé là, effectivement, un certain nombre de mouvements sociaux, la possibilité de s'exprimer. On en a eu probablement un très bel exemple en 2005, lors du débat sur le référendum de la Constitution européenne, où finalement, vous en souvenez, la grande majorité des médias était favorable au oui. Et l'expression du non, les nonis, comme on les appelait, se sont principalement exprimés sur le web. Et une étude qui a été faite sur les sites web sur le référendum européen montrait que les deux tiers des sites étaient favorables au non. Donc là, je crois qu'on a un bon exemple, finalement, où Internet a permis une expression d'autres opinions. Et puis, ça a été la montée en charge des blogs. Bien sûr, Dominique Cardon l'a montré dans un travail tout à fait intéressant sur les blogs. Les blogs politiques ne sont qu'une toute petite partie des blogs, mais malgré tout, là, il y a toute une série d'expressions possibles. Alors, malgré tout, un certain nombre de critiques ont été apportées. Est-ce qu'on ne va pas vers une sorte de morcellement, finalement, chacun ne s'exprimant que pour lui-même, certains auteurs parlent de monologue interactif. On aurait une sorte de juxtaposition de monologue interactif. Alors, je crois que cette critique me paraît en partie discutable. Parce que finalement, à cet éventuel morcellement de la prise de parole ne correspond pas à un morcellement de l'audience. Finalement, Internet, et là on retrouve une loi générale qu'on connaît bien dans les médias, finalement l'audience d'un Internet se concentre sur quelques grands sites. Hein, les sites de la presse en ligne, les sites des grands médias. Hein, et finalement, de nombreux sites ont une audience extrêmement restreinte. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on prend un micro-champ, hein, si on regarde finalement tel courant très particulier, eh bien, on s'aperçoit que là aussi, hein, y a une concentration sur quelques médias. Alors, cette concentration, d'ailleurs, est renforcée, hein, par des mécanismes propres à Internet, par les systèmes de référencement, hein, des moteurs de recherche, et du plus fameux d'entre eux, Google, hein, qui a tendance à effectivement classer les sites, comme vous le savez peut-être, en fonction du nombre de liens qui atterrissent sur ces sites, et qui donc concentre effectivement l'orientation des internautes. On a parfois appelé ça la Google-archie. Donc, s'il n'y a pas ce morcellement, est-ce que, c'était évoqué par Daniel Bougnou tout à l'heure, est-ce qu'on a cette homophilie, hein, c'est-à-dire, est-ce que finalement, on ne s'adresse qu'à ses pairs? Là aussi, la réalité est plus complexe. D'une part, cette homophilie n'est pas du tout une spécialité d'Internet. Hein. Il y a des travaux américains assez intéressants qui ont été faits il y a un certain nombre d'années sur... avec qui parle-t-on de politique, hein, et on s'aperçoit qu'on parle de politique avec ses proches, que ce soit son entourage familial, amical, ses collègues de bureau, et que finalement les gens avec qui on en parle, à 80%, sont des gens qui ont la même opinion que vous. Hein. Donc finalement, dans le débat public ordinaire, avec ses proches, on rencontre peu, finalement, des opinions contraires aux siennes. Par contre, sur Internet, finalement, quand on se penche non plus sur les sites politiques, c'est peut-être plus intéressant, parce que finalement, une des caractéristiques d'un Internet, vous le savez, c'est cette multiplicité des sites. Quand on regarde un certain nombre de sites généralistes, on s'aperçoit qu'on parle aussi politique dans ces sites généralistes. Hein, lors de la dernière campagne électorale, par exemple, Doctissimo, hein, qui n'est pas particulièrement un site politique, c'est un site sur les questions de santé, hein, finalement, a été un site où on a parlé politique. Et dans ce débat politique, il y avait de toute évidence des personnes qui avaient des opinions opposées. Donc, cette expression publique existe effectivement sur Internet. Penchons-nous sur la deuxième question que je voulais examiner. Comment s'organisent les interactions autour de cette expression électronique? Est-ce que, comme on le dit souvent, Internet est un processus qui permet de construire de l'intelligence collective? Je dirais... Là, la situation me paraît plus complexe. Finalement, Internet reprend une tradition qui existe aussi dans les médias, qui est la tradition, on pourrait dire, de la mesure d'audience, la tradition du hit-parade. Hein. Il y a une sorte de logique de concurrence entre ces sites. Hein. On en trouve un exemple amusant dans les blogs des adolescents, hein, qui... laisse souvent ce message: lâchez vos coms, hein, lâchez vos commentaires, mettez des commentaires pour que mon site remonte, pour qu'on parle de mon site. Plus il aura de commentaires, plus on en parlera. Eh bien, il y a là une sorte d'idée de référendum permanent. Hein. Il y a aussi l'idée... très répandu sur Internet, c'est qu'on peut très facilement passer d'un site à l'autre. Hein, d'un coup de clic, hein, on quitte un site pour en rencontrer un autre. D'une certaine façon, de cette façon, hein, je vote sinon avec mes pieds, je vote avec ma souris. De cette façon, Internet devient une sorte d'agrégateur des intérêts individuels. Il y a là, je crois, une tendance qui me paraît assez dangereuse, hein, pour notre débat d'aujourd'hui, qui serait de considérer que finalement le débat public, c'est une sorte de marché, que l'activité politique fonctionne comme le marché. Hein ? Si un produit ne me plaît pas, je passe d'un rayon à l'autre de l'hypermarché. Hein ? Eh bien, derrière hein, cette logique de comptage permanent, hein, il y a effectivement l'abandon, en définitive, de ce qui est fondamental dans le fonctionnement de notre démocratie, c'est le débat délibératif. Il n'y a pas de débat délibératif si à tout moment je me contente de cliquer. Et on sait bien que l'opinion se forge dans la confrontation, dans le débat. Sans compter qu'il y a une sorte de risque très grand de conformité. Il y a un exemple qui nous... Nous quittons un tout petit peu le terrain politique hein, pour passer au domaine de la musique. Hein, mais je trouve intéressant qu'il y ait un site, je ne sais pas si vous connaissez ce site, My Major Company. L'idée, c'est finalement, les internautes vont aider à la production de musique. Hein, donc, des groupes peuvent proposer... une chanson, et ensuite il y a un vote, et un vote qui engage les internautes, puisqu'on met un petit peu d'argent, hein, et si on atteint une certaine somme, c'est 70 000 euros, le disque va être produit. Donc, merveilleux système démocratique, nous sommes associés finalement au choix hein, de la musique qui va être produite. Quand on regarde un petit peu ces choix musicaux, on s'aperçoit que ces choix, finalement, sont très conventionnels, très mainstream. C'est la musique qu'on trouve en permanence dans un certain nombre de stations de radio. Donc, finalement, ce processus démocratique n'a pas ouvert hein, réellement le choix. Alors, et ce sera mon dernier point, la situation est plus complexe, et c'est un petit peu sur cette complexité que je voudrais terminer. Hein. D'abord, il y a effectivement un certain nombre de lieux de débats importants sur Internet, et je voudrais reprendre un point qui avait été évoqué dans la table ronde précédente, hein, qui est la question des procédures, la question des règles. Hein. Je pense qu'il ne peut y avoir de débat dans le monde virtuel comme dans le monde réel, que s'il y a des procédures très très précises. On a évoqué Wikipédia, peut-être on y reviendra. Wikipédia est un exemple de ces procédures, mais je crois qu'il y a beaucoup de cas où ces procédures sont essentielles. C'est un peu la même chose dans les partis politiques hein, qui souhaitent effectivement intégrer Internet à leur campagne. Hein. Finalement, si on essaye de faire un bilan en quelques mots hein, de l'opération des désirs d'avenir proposée par Ségolène Royal pour sa campagne, on a eu à la fois un dispositif qui a permis une expression de parole relativement importante, qui a eu une audience moyenne, mais qui n'a pas réussi à se combiner hein, au programme du Parti socialiste et de sa candidate, parce que de toute façon, le programme était déjà fait. Donc là, on tombe manifestement sur un problème de procédure. C'est-à-dire, si on demande aux gens de créer un programme, il faut qu'effectivement, eh bien, dans le timing de l'élaboration du programme, leur contribution ait une place. On pourrait, en deux mots, parler également de la campagne Obama, où là, manifestement, hein, il y a eu, au sein du Parti des démocrates, incontestablement, une intégration beaucoup plus grande de l'intégration de l'activité des internautes, avec à la fois une vraie participation de leur part et en même temps un vrai cadrage. Hein. Éventuellement, on pourra y revenir dans le débat. En conclusion, ce que je sens que...
Ça va. 3 minutes. Hein,
eh bien, ce qui me reste quelques minutes pour conclure, je dirais, c'est probablement... et on retrouve un thème abordé dans ces journées, la question de la contre-démocratie abordée par Pierre Rosanvallon. Internet est incontestablement un lieu qui permet l'expression hein, de toute une série d'opinions hétérodoxes hein, venant d'un certain nombre de mouvements sociaux, d'un certain nombre de regroupements de citoyens, qui permettent effectivement ce travail de surveillance, de confrontation, qui est au cœur de la démocratie. Et je pense que incontestablement, Internet rend cette chose possible parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un merveilleux lieu d'expression, hein, et petit à petit peut s'agréger, hein, un certain nombre d'opinions, hein, transversales, hein, qui ne rentrent pas dans le débat politique classique. Donc je crois que là, pour conclure, je dirais qu'il y a un acquis incontestable d'Internet.
Merci Patrice Flichy. Alors, se rajoute au thème déjà évoqué par Daniel Bougnou, peut-être cette question du manque de délibération. C'est-à-dire que vous êtes d'accord tous les deux, au moins pour dire que Internet représente un moyen d'expression égalitaire, qu'il corrige les défauts de la représentation. Là-dessus, manifestement, vous êtes d'accord. On verra si Dominique Cardon partage votre avis. Mais en revanche, est-ce que ça suffit pour en faire un espace vraiment démocratique, dans la mesure où l'idée du débat égalitaire ne suffit pas? Il faut aussi avoir l'intention d'obtenir, d'aboutir à une position commune en fonction d'échanges contradictoires, mais en gros construire du consensus sur du dissensus. Donc ça, c'est peut-être un autre aspect du débat qu'avait pas abordé Daniel Bougnou et que vous soulevez, Patrice, et sur lequel on reviendra après la discussion avec vous, Dominique Cardon.
Merci. Bon, alors c'est à la fois compliqué et plus simple d'intervenir en troisième position. Parce que, alors, il y a effectivement des points moi, que je vais redire sans doute un tout petit peu différemment, mais en même temps, du coup, en profiter aussi pour déjà répondre, engager la discussion avec Patrice Flichy notamment sur ces questions. Alors moi, je voulais proposer un exercice qui était très simple, très caricatural, qui était et très simplificateur, voilà. D'essayer de réduire, de faire un exercice de pensée qui serait de dégager quelle est justement cette forme politique ou cette forme démocratique qui serait présente dans Internet, et de le faire sans préface, sachant qu'évidemment ça pose toute une série de questions préalables qu'il faudrait soulever sur le déterminisme technologique, sur qu'est-ce que c'est qu'Internet, qui est un ensemble de choses extrêmement multiples et différents. Donc je vais agréger et condenser des propriétés tout en sachant qu'il faudrait en fait faire une vraie déconstruction de la pluralité, de la diversité et de la multiplicité des usages de l'Internet. Mais je prends le risque quand même, et je voudrais proposer six petites leçons ou six petites propriétés de ce qu'on pourrait appeler une forme, enfin moi ce que j'appellerais une forme politique de l'Internet, qui serait presque, et là du coup je caricature, enfin encore une fois, presque présente dans l'histoire de l'Internet, dans son ADN. Alors justement Patrice Flichy a montré d'une certaine manière, je pense, quand on fait l'imaginaire de l'Internet des origines, l'Internet des pionniers, ils ont enfermé dans la technologie des manières de faire, des manières d'innover, des manières d'ouvrir la technologie, des manières de coopérer, qui ont défini non seulement l'infrastructure technologique de l'Internet, mais en partie aussi toute une série d'usages qui lui sont associés et sur lesquels se sont accrochés toute une série de représentations politiques qui sont propres à l'Internet et qui sont persistantes, me semble-t-il, dans les usages et dans les formes du réseau, même les formes contemporaines. Mais si je veux faire cet exercice, c'est aussi parce que je crois que l'Internet est en train de changer. Alors, ce n'est pas l'Internet qui est en train de changer, le phénomène puissant, massif, auquel on fait face aujourd'hui, et qui est aussi une question démocratique centrale, c'est celui de la massification des usages. Moi, je crois qu'il faut faire le parallèle pour ça avec les débats scolaires sur l'école, hein. C'est qu'il y a de nouveaux usagers qui arrivent, c'est plus du tout les usagers de l'Internet des origines, et que du coup, ce format politique qui s'est constitué dans l'Internet est en tension et ne sait pas très bien comment réfléchir et comprendre ces nouveaux usages. Alors je vais tout de suite à mes six points. Le premier, qui a déjà été évoqué, alors que moi je dirais avec en reprenant la formule de Jacques Rancière, qui est que ce qui fait le caractère profondément démocratique de l'Internet, c'est qu'il présuppose l'égalité des participants. Ça ne veut pas dire que tout le monde est égaux sur Internet, ça ne veut pas dire que tout le monde a la même qualité de parole sur Internet, ça ne veut pas dire que entre les professionnels et les profanes, les journalistes et les blogueurs, les petits et les grands, il n'y ait pas des différences évidentes dans les formes d'expression sur Internet et un nivellement de la qualité, mais ça veut dire qu'on présuppose l'égalité initiale. Et c'est vraiment au cœur des fondements et des usages d'Internet, un peu à la manière de l'isoloir, hein, si on veut y regarder, c'est-à-dire que sur Wikipédia, dans le monde du logiciel libre, on ne va pas d'abord vous demander quels sont vos titres et vos compétences. On ne va pas d'abord commencer par demander quel est le statut incorporé des individus, leur titre à agir sur Internet. On va les évaluer sur ce qu'ils font. Hein. Et Internet est à ce titre-là extrêmement, d'une certaine manière, sélectif socialement aussi. Mais il s'appuie d'abord sur la capacité à faire. Il va d'abord évaluer les contenus des personnes avant d'évaluer leur diplôme. Il va constamment faire cette présupposition qui est très fondamentale à la plupart de la formation des collectifs dont on peut dire qu'ils sont politiques sur Internet. Et je pense que cette propriété architecture beaucoup de choses dans la vie d'Internet. Alors évidemment, il y a un risque, hein, c'est qu'il y a un danger politique. On pourrait dire que c'est aussi une valorisation qui est excessivement libérale de l'individu, c'est-à-dire qu'on va le regarder sur sa... On va le responsabiliser, c'est ce qu'il va faire qui va permettre de l'évaluer. Donc, comme dans toutes les formes en réseau, c'est très excluant. Hein, les mobiles disqualifient les immobiles, les agiles contournent les enracinés. Et puis, il y a évidemment une autre critique qu'on peut faire à cette propriété, qui est là, beaucoup plus sociologique, c'est de dire, bon, ben voilà, c'est aussi très hypocrite de penser l'égalité fondamentale de tous les participants sur Internet quand on sait très bien que des variables sociologiques traditionnelles vont effectivement jouer fortement ensuite dans la distribution des hiérarchies et des pouvoirs sur Internet. Deuxième petite propriété, c'est que précisément pour élargir l'espace des preneurs de parole sur Internet, une des choses centrales qui s'est passée, c'est qu'on a ouvert l'espace public à la possibilité de l'expression des subjectivités. Hein, et on peut dire d'une certaine manière, si l'espace public traditionnel est objet de fermeture, de clôture, c'est précisément parce qu'il oblige les preneurs de parole, professionnels, journalistes, hommes politiques, experts, etc., à cette forme de distanciation, d'autocontrôle, d'impartialité, de neutralité, qui va exiger des compétences linguistiques et sociologiques et sociales et culturelles qui sont très fortes. En ouvrant l'espace de la prise de parole au jeu, à la subjectivité, au point de vue, aux émotions, on a évidemment des possibilités d'ouverture de la prise de parole qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes. Et évidemment, Internet s'est emparé, les blogueurs, hein, et même tout le discours esthétique, politique de l'Internet a vraiment insisté sur cette idée que c'est le lieu d'expression des subjectivités. Ce qui évidemment pose toute une série de problèmes, peut être évidemment mis en tension par derrière, avec l'idée que ça favorise aussi une sorte d'individualisme désengagé, consommateur, expressif, vandale ou d'autres éléments de cet ordre-là. Troisième élément qui est central, et alors là je pense que c'est le point avec lequel je serai peut-être en débat là avec Patrice, c'est vraiment l'idée de la conversation sur Internet. C'est-à-dire qu'on pense Internet comme un espace public, on lui impose les catégories de l'espace public de la graphosphère, et alors que c'est un espace public qui est très très différent. C'est un espace qui n'est pas entièrement public, c'est un espace où il y a des zones en clair-obscur, c'est qu'une grande partie des intentions de prise de parole sur l'Internet ne sont pas destinées à l'ensemble de la population. On parle avec ses amis, on parle avec ses proches. Internet, c'est un ensemble de niches, de conversations qui s'accrochent les unes aux autres selon des logiques qui sont relativement aléatoires, et surtout, c'est des logiques qui ne sont pas décidées par un centre éditorial quelconque, mais plutôt par l'action et les modes de coordination en essaim et en nébuleuse des acteurs. Mais donc, on a un espace dans lequel on s'exprime pour quelques-uns, auprès de quelques-uns, avec des gens avec qui on est entré en interaction. Et dans ces formes d'expression, il y a deux choses qui jouent de façon centrale, que sont la vigilance et la reconnaissance. Hein ? D'abord, la vigilance critique. Internet, c'est un lieu dans lequel on est toujours, ou on est beaucoup, dans un état de surveillance critique, d'observation, de mise en discussion et de débat. Et c'est pour ça que je pense que la délibération y est toujours forte. Hein, quand vous entrez, quand vous mettez sur un post de blog, avoir des commentaires qui vont être très sévères avec le posteur du blog et argumenter de façon manifestement fausse, vous allez avoir d'autres commentateurs qui vont venir engager la discussion. Il y a une forme, je crois, de rationalité discursive qui se perd très très facilement parce que les internautes expriment ce mode de vigilance les uns à l'égard des autres, et évidemment l'exemple le plus parlant sans doute à cet égard, mais j'y reviendrai, est Wikipédia. Vigilance et recherche de reconnaissance qui sont très présents dans la conversation sur Internet. Quatrième point, alors qui est plus complexe et sur lequel je ne vais pas m'arrêter longuement, mais ce qu'avec Christophe Aguiton on appelle les modèles des coopérations faibles, c'est-à-dire qu'en fait la formation des collectifs sur Internet passe par un processus qui n'est pas entièrement nouveau, mais que d'une certaine manière Internet radicalise, je crois. C'est l'idée que les collectifs sont constitués, pas très facile à exprimer, mais ex post, c'est-à-dire que d'abord on s'engage comme individu. C'est d'abord comme individu qu'on publie ce qu'on aime, ce qu'on fait, nos goûts, nos textes. Et c'est en rendant public des éléments de nos actions que se créent des opportunités de dialogue, de conversation, puis de constitution de collectif avec les autres. Et donc, d'une certaine manière, le collectif est une forme conséquente de l'engagement individuel des personnes. Il est une propriété émergente de la situation, des situations collectives et des interactions qui sont nées de l'engagement des personnes. Du coup, cette idée très fréquente, beaucoup dans le discours d'Internet, de l'Internet, des communautés. Oui, mais il y a beaucoup de communautés sur Internet. Les internautes reprennent beaucoup cette idée de communauté. Mais on n'est pas du tout dans la communauté villageoise ou la communauté statutaire ou la communauté religieuse, une communauté qui serait inscrite dans notre personne. On est dans des communautés qui sont des communautés électives, des communautés qu'on a choisies, qu'on a construit avec les autres, qu'on a performé, comme disent aujourd'hui les observateurs de ces communautés. Donc on a une forme de collectif qui est une propriété, je crois, émergente de l'interaction des personnes, ce qui là évidemment pose aussi beaucoup de questions, c'est-à-dire est-ce que finalement ces collectifs, et alors là je pense beaucoup à des collectifs politiques qui sont apparus sur Internet sur ces modèles-là, au mode actuel d'ailleurs de coordination des mobilisations qui passe beaucoup par ces essaims de petits noyaux qui se coordonnent entre eux et qui découvrent leurs affinités et leur mode de contestation et de lutte ensemble, comment ils se situent par rapport aux collectifs traditionnels, aux collectifs politiques qui eux ont une histoire, une tradition, des formes d'engagement et de recrutement des personnes qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus forts, ce qui est évidemment un point qui peut être débattu. Le cinquième point, c'est ce que j'appelle la tendance procédurale sur Internet, c'est-à-dire que les collectifs qui se constituent sur Internet reprennent à la forme réseau cette propriété centrale qui est qu'on refuse la délégation, on refuse le centre, on refuse de se remettre à des autorités qui vont nous représenter. On gère le collectif à travers des systèmes auto-organisés dans lesquels l'auto-organisation passe beaucoup par la mise en place de procédures dans lesquelles on ne va pas juger en substance la nature même ou du fondement de la cause qui nous réunit, mais on va vérifier constamment que chacun respecte bien l'idée d'un collectif à centrer ayant un certain nombre de procédures à respecter. Alors Wikipédia est un exemple fascinant, je crois, de ce processus, hein. C'est-à-dire que sur Wikipédia, on insiste beaucoup sur le fait que tout le monde peut écrire, c'était ma première propriété, mais sur Wikipédia, surtout, tout le monde veille sur le bien commun qui est formé. Chaque personne qui a écrit sur Wikipédia va devenir attentif à l'article auquel elle a contribué. Elle va regarder ce que les autres ont fait. Quand quelqu'un d'autre va mettre quelque chose avec lequel elle est en désaccord, elle va, sur la page de discussion, commencer à débattre avec elle du désaccord à propos de la contribution de l'autre personne. Ils vont ensuite vérifier auprès des procédures de Wikipédia qui sont, si chacun a bien sourcé, si l'élément apporté doit effectivement être mis dans Wikipédia. Et donc, une grande partie de cet incroyable écheveau de discussion qui naît entre les individus dans ces collectifs vont être dans des systèmes qui sont très très procéduralisés de mise en débat. Et je crois que toutes les formes en réseau qui ont, et les formes politiques qui ont beaucoup utilisé Internet, moi celles que j'ai étudiées sont plutôt celles des des mouvements altermondialistes et des forums sociaux mondiaux, précisément ont eu un usage fort d'Internet parce qu'eux-mêmes étaient dans une situation où il fallait mettre en réseau des acteurs extraordinairement hétérogènes, dans lesquels finalement seules des procédures de compromis et de consensus pouvaient arriver à tenir ensemble le tissu d'intérêts multiples et hétérogènes qui les avaient réunis. Donc on a une forme qui est très procédurale et évidemment... La question d'une démocratie qui soit simple, de forme délibérative qui soit simplement procédurale, est toujours très difficile à installer et présente aussi un autre risque qu'il faut souligner et qui est présent sur Wikipédia, qui est celui aussi qui est une avant-garde des procédures qui se constituent. Les procédures créent de la bureaucratie, enfin une bureaucratie procédurière de gens qui sont particulièrement adroits dans la manipulation de ces techniques. Et puis mon sixième élément, c'est celui de la manière dont on peut faire de la légitimité dans cet espace d'auto-organisation. Comment on fait de la hiérarchie, comment on fait du pouvoir, parce que évidemment Internet, cet univers d'individus égaux qui s'organisent par des procédures dans des coopérations faibles, est plein de hiérarchie et plein d'autorité, qu'il y en a qui certains sont plus visibles que d'autres, et que le fondement de cette autorité sur Internet, il est trouvé à travers le mécanisme que rappelait Patrice, qui est celui du nombre. Donc c'est effectivement, on crée de la visibilité en créant des liens avec les autres. Alors simplement, moi je crois que ces liens ne sont jamais créés par hasard et qu'il faut du coup être très attentif à la manière dont se produit des agrégats de liens, c'est-à-dire de gens qui vont citer d'autres personnes et de regarder à quelle logique sociale ils obéissent. Or il me semble que, en tout cas dans ce modèle que j'essaye de styliser de la forme politique de l'Internet, c'est une raison procédurale et plutôt délibérative qui serait vraiment orientée, ce serait un modèle un peu habermasien, par la raison qui fait que certains sont plus visibles que d'autres et que d'une certaine manière, on le voit bien dans la blogosphère, les blogs, les premiers blogs au classement Wikio sur leurs différentes thématiques sont à bien y regarder, les classements sont franchement relativement pertinents. Il n'y a pas d'incohérence absurde dans ce modèle. Mais évidemment, le risque, et j'en viens à ma conclusion, le risque, c'est que d'autres procédés d'agrégation de liens opèrent aujourd'hui sur Internet, et notamment le mimétisme viral, qui peut lui aussi produire de la visibilité sur des contenus qui sont très différents et qui n'obéirait pas à un style d'échange délibératif entre les individus. Alors c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais finir. C'est qu'il me semble que, voilà, j'ai très caricaturalement essayé de sortir six petites propriétés qui me semblent définir la forme politique de l'Internet, mais de l'Internet de Wikipédia, des logiciels libres, des militants altermondialistes, des médias alternatifs, etc., qu'aujourd'hui, on est vraiment à un moment charnière. C'est que ne serait-ce que parce que ce modèle, quand on y regarde bien, il était... très ouvert, très démocratique, mais extraordinairement élitiste. Il y a un bon livre américain qui rappelle ça aujourd'hui. C'est que les fameuses communautés de l'Internet, c'est des hommes blancs très diplômés. Donc c'est quand même extrêmement sélectif socialement. C'est en fait extrêmement censitaire, si on veut bien y regarder. Et qu'aujourd'hui, sur Internet, est en train d'arriver une génération d'utilisateurs beaucoup plus jeunes, beaucoup moins diplômés, d'origine sociale extrêmement différente, et qu'ils arrivent sur les plateformes de réseaux sociaux, qui sont sur MySpace, qui sont sur tous ces sites, et que d'une certaine manière, ils font ce qu'ont fait leurs aînés. Ils s'expriment, ils font de la conversation, ils créent des collectifs ensemble, mais aussi ils s'amusent beaucoup, ils sont très impudiques, ils se dévoilent, ils sont dans des logiques extrêmement différentes, ils manipulent des objets culturels qui sont beaucoup plus standards, beaucoup plus mainstream et du coup beaucoup moins appréciables. Et que je crois que les gens qui ont beaucoup théorisé sur ce premier modèle politique de l'Internet, qui l'ont beaucoup rêvé aussi, se trouvent en difficulté face à ce nouvel objet. Et alors qu'ils ne savent pas très bien le prendre, alors il y a plusieurs manières. Soit on peut valoriser... esthétiser ces nouvelles formes de culture populaire extrêmement expressive qui arrivent sur Internet et dire qu'il y a une culture du remix, du bidouillage qui est toujours présente. Soit, et je trouve qu'on voit beaucoup cet élément arriver, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir sur Internet avec une critique sur le modèle de l'école de Francfort, c'est-à-dire de dire qu'on a une sorte d'aliénation nouvelle dans laquelle les industries culturelles, les industries de l'expression de soi transforment en petits narcisses les internautes, et qu'il y a une sorte de colonisation du monde vécu, qu'ils sont obsédés
par le dénombrement de leur nombre d'amis, la mise en réputation de leur propre personne, et toute une série d'éléments de cet ordre-là. Alors évidemment, moi je pense qu'il faut être très, et surtout, et j'ai oublié de le dire, à un dévoilement et à des prises de risques importantes en termes de données personnelles et de publication d'éléments privés les concernant. Alors évidemment, moi je serais plutôt du côté de la première, enfin du maintien de la première perspective, c'est-à-dire que je crois qu'il faut prendre très au sérieux le maintien du premier modèle, enfin de ce modèle de la forme auto-organisée de l'Internet, tout en sachant accepter un nouveau, encore une fois rancière, partage du sensible avec ces nouvelles formes d'expression qui sont en train d'arriver sur Internet, dans lequel, au milieu de beaucoup de choses très diverses et multiples, il y a aussi de la conversation, il y a aussi de l'échange, il y a aussi une sorte d'appropriation des contenus culturels extrêmement denses et riches, qui peut aussi s'opérer, même si beaucoup de ces contenus sont mainstream, qui ont lieu. Et juste pour finir, je crois que moi, enfin en tout cas, ce qui me sert de critères pour essayer de placer là-dedans, c'est que je crois que ce qu'il y avait dans l'idée de l'Internet, de la forme démocratique de l'Internet, c'est l'idée que on se laissait redéfinir par les autres. Dans le modèle de la conversation, finalement, on publie son identité, mais on ne publie pas son identité pour soi, on la publie pour rentrer en interaction avec les autres, et que finalement, les autres vont nous aider à découvrir des éléments de nous-mêmes, mais surtout, ils vont nous aider à découvrir des choses qui nous intéressent, ils vont nous aider à circuler, ils vont nous aider en fait à être à la fois curieux et à se révéler à soi-même des qualités, des compétences ou des centres d'intérêt, et que c'est la vocation fondamentalement communicationnelle de l'Internet qui était en jeu là-dedans. Alors aujourd'hui, dans le débat actuel qui a lieu sur le Web 2, on est dans cette situation-là. Est-ce qu'on est dans une situation finalement de confrontation d'individus qui ne font que en fait reproduire des structures de goût et d'habitudes qui sont celles de leur conditionnement entre guillemets par les médias et les industries culturelles, ou est-ce qu'il y a encore de la redéfinition de l'identité à travers les modes de circulation et d'identité qui ont lieu sur le web? Et j'aurais tendance à dire qu'il y a des espoirs quand même de ce côté-là.
Merci beaucoup Dominique Cardon. Peut-être une question avant de vous donner la parole, une question qui n'a pas été abordée ce matin-là par les intervenants, mais que je me posais hier en réfléchissant à cette question posée par le débat. Est-ce que c'est pas cette question d'Internet comme espace démocratique, est-ce que c'est pas une question qu'on se pose plus dans une démocratie que dans tout autre régime, en particulier des régimes autoritaires ou dictatoriaux? C'est-à-dire que j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, mais qu'en Chine, et Pierre Aski dans un ouvrage récent l'a très bien montré, en Chine, Internet est une caisse de résonance de la société civile, c'est un espace qui permet l'émergence d'une opinion publique virtuelle qui n'existe pas ou qui ne peut pas exister à cause du contrôle, à cause de la surveillance permanente qu'il y a dans la société physique, on va dire, extérieure à Internet. Et du coup, est-ce que c'est toutes ces questions qu'on se pose ce matin, qui sont des questions fondamentalement importantes, mais est-ce que toutes ces questions ne sont pas avant tout des questions qu'on se pose parce qu'on est dans un régime démocratique et donc on va chercher la petite bête d'une certaine façon? Question que je vous pose à tous les trois et puis ouverture à la salle ensuite.
La démocratie, comme le rappelait hier, je crois, Pierre-Rosan Vallon ou Claude Lefort, c'est le régime qui ne cesse de se débiner lui-même, si je peux dire, qui ne cesse de se déconsidérer lui-même pour se construire en permanence, pour se critiquer en permanence. Donc oui, ça fait partie du jeu démocratique, cette mélancolie démocratique, cet acharnement contre soi. Les meilleurs démocrates sont les plus critiques, ce sont ceux qui ne passent rien à la démocratie, qui ne supportent pas les tares de la démocratie. Mais comme selon la formule archi-usée de Churchill, on ne trouve pas mieux ailleurs. Donc,
oui, je crois que Internet peut être un régime de surveillance, hein, incontestablement, puisque on laisse des traces de toutes nos actions sur Internet, que en Chine, en Tunisie, il y a un certain nombre d'entrées contrôlées sur le réseau. Mais en même temps, je crois que vu le foisonnement, et la Chine est probablement absolument fascinante. Je veux dire, vu l'immense foisonnement, malgré le fait que le gouvernement chinois paye un certain nombre de gens pour surveiller Internet, il semble que réussit malgré tout à émerger une parole qui n'émergerait pas autrement. Donc finalement, peut-être encore plus dans ces régimes que dans le nôtre, hein, je pense qu'Internet est un lieu de tension qui offre probablement des opportunités. Hein, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, donc au-delà, je ne saurais pas en dire plus.
À vous, si vous levez la main. Alors on va prendre 4 ou 5 questions. Et puis, voilà. Donc devant, j'ai vu le monsieur avec le pull rayé, le monsieur avec la chemise à carreaux. Je suis désolée.
Des vêtements brillants pour le débat.
Ouais. On va prendre des questions aussi au fond, parce que je sais, pour l'avoir vécu hier, que la parole circule souvent devant, mais on donne moins la parole au fond. Monsieur.
Oui, bonjour. Donc moi, je voulais faire un parallèle. Bon, on a parlé à un moment donné de la révolution de l'imprimerie par rapport à Internet. Il y a eu 1789, on se demande si ce n'est pas l'imprimerie qui a aidé à arriver à 1789. Derrière tout cela, il y a eu des nouveaux médias, etc. Mais tous ces médias ont été très coûteux, très chers et très faciles à contrôler par les États. C'est-à-dire très faciles en plus à manipuler, à appliquer une certaine censure. C'est-à-dire en gros, bon, un lobby financier contrôle un média. À partir de là, il peut orienter une population pour des élections, etc. Simplement, je voudrais dire, Internet aujourd'hui, c'est quoi? C'est un média qui est gratuit, enfin pour le moment, qui est difficilement contrôlable, qui est donc une nouvelle démocratie. Et est-ce que cette nouvelle démocratie ne peut pas amener une certaine révolution? Et derrière, l'État, évidemment, est amené à essayer de contrôler Internet, parce qu'il sent bien le risque qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, on contrôlait la presse, la télévision, etc. On ne contrôle pas Internet, c'est-à-dire un nouveau moyen de communication où le peuple a accès.
Merci, monsieur. Une deuxième question. Je vous demanderai à tous et à chacun, dans la mesure du possible, de faire des questions courtes pour qu'on puisse en prendre un certain nombre. Sinon, on n'aura pas le temps de répondre à toutes. Monsieur.
Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots des relations entre Internet, la démocratie et la propriété intellectuelle des procédures qui sont mises en place sur Internet, comme par exemple sur Wikipédia, mais aussi, puisque c'est le sujet aujourd'hui et c'est très important, sur les outils Internet qui pourraient concerner la démocratie. Et par exemple, les procédures qui sont proposées pourraient être plus ou moins figées ou restrictives. Est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans un cadre de propriété intellectuelle? À quel niveau? Puisqu'on sait qu'il y a différents niveaux de propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez aborder ce sujet?
Une troisième? Monsieur.
Bonjour, Pierre-Yves Schneider. J'ai été très étonné parce que j'ai entendu, qui me paraît être une vision extrêmement intéressante, positive, mais angélique, concernant Internet. Nouvel espace démocratique, peut-être, mais en quoi Internet peut-il être un espace non démocratique, antidémocratique, contre la démocratie? Et je prends simplement trois exemples qui me sont venus en vous écoutant, et surtout en écoutant le chercheur de France Télécom, c'est ça ?
Dominique Ardan.
France Télécom. Quid du système de surveillance globale que permet la toile via les réseaux sociaux, et plus généralement via l'extrême transparence technologique que représente Internet ? Je n'ai pas entendu ça, ça me paraît être l'un des problèmes majeurs. Quid du développement de la consommation des intimités, le plus souvent sous forme d'images, aujourd'hui, que permet Internet ? C'est aujourd'hui... Ce n'est pas la possibilité qu'offre Internet, ce sont les nouveaux usages qui, à mon avis, posent légitime cette question. Quid enfin, troisième exemple, mais il y en aurait d'autres, quid de la sondagite généralisée qui devient une valeur principale en termes d'information ou de message, quand la qualité de ces informations réside dans le pourcentage de clics, quelque chose qu'on voit se généraliser partout sur la toile. Ça ne me paraît pas être vraiment un exemple de bon espace démocratique. Merci.
Enfin, une quatrième pour commencer, puis on s'arrêtera là. Oui. Monsieur, juste au-dessus, j'ai vu.
Oui, j'ai bien aimé votre rapport sur la logique de massification. Pour finir, la démocratie athénienne était déjà aussi très élitiste. Hein. Justement, par rapport à cette question de massification, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à l'émergence d'une sorte de nouveau populisme ou de nouveaux enjeux? Et comment faire le lien entre... nouvel espace démocratique, est-ce que ce n'est plutôt Internet un espace démocratique face aussi à un espace populiste et manipulatoire qui prend une dimension exponentielle en ce moment, et voilà, ce lien entre espace démocratique et espace je dis manipulatoire, peut-être, enfin, en tous les cas, un qualificatif à tendance négative.
Alors, on va essayer de regrouper dans vos quatre questions. Il y a des choses qui peuvent être regroupées, par exemple, des termes politiques. Par exemple, si je prends la première question, est-ce qu'il y a un risque révolutionnaire ? Enfin, pas un risque, mais tendance révolutionnaire. Une chance, oui, révolutionnaire. Mais il y a chance d'un côté et risque de l'autre. Risque de surveillance globale, risque en termes de protection des données personnelles, et la question de la privacy qu'on. On me posera sans doute la question à Dominique Cardon qui a travaillé sur cette question. Espace antidémocratique, donc déjà, révolution d'un côté et puis antidémocratie de l'autre. On peut répondre peut-être à ces deux types de questions, Daniel.
Ce sont des questions qui, en effet, vont dans le sens de la complexité, donc ce sont de bonnes questions. Elles invitent à compliquer le débat. Et c'est vrai que si nous avons tordu le bâton dans le sens de le curseur, disons, dans le sens de l'optimisme, il faut maintenant le déplacer dans le sens du pessimisme. Et c'est vrai qu'Internet offre de merveilleuses facilités de traçage, de flicage, de fichage, donc de surveillance. Et le mot surveillance a quand même circulé parmi nous. C'est positif dans le cas de Wikipédia, bien sûr, autocorrection permanente en vue d'un bien commun qui est la fiabilité même du réseau. Et je crois qu'il y a ce bien commun qui est le bien central en quoi consiste le nouvel outil. Ce bien commun n'est pas transcendant au ciel, il est immanent entre nous, Internet, c'est entre nous, c'est dans nos mains, c'est sous nos doigts avec la souris. Donc ça se passe ici et maintenant, chaque fois, à chaque clic. Mais alors, d'autres jouent de ces souris et clics pour, évidemment, nous profiler en permanence et nous vendre des publicités ciblées pour connaissant nos goûts et nos recherches, ou bien, pire, bien sûr, nous fliquer. Et donc, nous accumulons une ombre numérique, j'aime bien cette idée d'ombre numérique, qui nous suit, qui est en permanence connue par certains. Et cette ombre, comme dans les meilleurs romans de science-fiction, notamment Edgar Poe, eh bien, peut revenir nous prendre à la gorge et nous terrasser au moment le plus inattendu. Donc il y a en effet... Alors prenons l'exemple du tiers-monde. Dans le tiers-monde, évidemment, Internet est un espace... Je prends l'exemple de Tunisie, que je connais par un étudiant qui fait sa thèse avec moi sur ce sujet. En Tunisie, Internet est un espace merveilleux pour certains d'accès à des informations... interdite ou peu désirable par le pouvoir central, et bien sûr, pour ce pouvoir central, des moyens merveilleux de traçage, flicage, surveillance de ceux qui jouent avec la toile et qui tentent d'échapper au maillage policier. Donc, c'est un jeu de chat et de souris. Parfois, c'est un sport. Parfois, ça se termine évidemment tragiquement, en tout cas en prison. Et donc, voilà, Internet, partout où il arrive, est un outil ambivalent. Et je dirais qu'en démocratie, en médiologie, dans sa liaison avec la démocratie, il ne faut pas avoir une vision mécaniste de l'outil. L'outil est ambivalent par définition. Alors, le livre, monsieur, a quand même été la bataille du livre que l'État a régulièrement menée depuis l'Inquisition, depuis la censure royale, depuis... mais il n'y aurait pas eu les Lumières sans le livre, en effet, donc pas de Révolution française sans développement des Lumières, donc sans développement de la graphosphère, mais cette bataille de la censure a été régulièrement perdue par l'État. Même s'il y a des censures résiduelles aujourd'hui, il y a quand même une dynamique d'autonomisation par les nouveaux médias, des usagers de ces médias. Donc, il ne faut pas peut-être surestimer les capacités de la censure, même si dans certains pays, la censure a évidemment la main très lourde. Chez nous, disons, les médias l'ont assez régulièrement emporté contre la censure. Mais d'autres censures reviennent, la censure économique. Le poids de l'invasion économique de la toile est évidemment très préoccupant, et les surveillances personnelles. Et le flicage des uns par les autres est une donnée permanente de la vie sociale. Et je dis qu'Internet n'est pas un empire dans un empire. Il n'échappe pas au régime général de la surveillance, de la violence, de la mainmise des uns par les autres. Donc restons très vigilants au bon sens du terme.
Est-ce qu'Internet peut donc susciter, provoquer la révolution ? Et donc, est-ce que comme c'est un outil incontrôlable, le pouvoir, comme de poser la question, monsieur, le pouvoir tente de contrôler ce moyen incontrôlable pour éviter qu'on ne passe à un système propre ou propice à la révolution ? Est-ce que le virtuel peut se transformer en réel ? Patrice ?
Est-ce qu'Internet peut susciter la révolution ? Voilà une question difficile. J'aurais envie de répondre en disant finalement, est-ce qu'on peut encore parler d'Internet de façon générale ? Et je crois que dans la conclusion de Dominique tout à l'heure, il disait finalement que nous sommes rentrés dans un Internet de masse, et qu'est-ce que ça change ? Je crois que la première chose que ça change, c'est que Internet qui était déjà multiple le devient à la puissance 2. Finalement, déjà, Internet, je crois qu'on a souvent tort de parler d'Internet comme d'un média. Internet est un média, mais c'est bien autre chose. Hein. Dominique nous parlait de conversation. Internet, effectivement, c'est un outil de conversation. C'est même un outil de message. Hein. Et je suis très, très, très frappé de voir les écarts de pratique fantastiques. Hein. J'en prendrai juste deux exemples. Un exemple lié à mon activité d'enseignant. L'autre jour, je discutais Internet avec mes étudiants. On discutait de la messagerie. Et ils me disaient, vous savez, pour nous, monsieur, le mail, ça sert uniquement à envoyer des messages aux professeurs. Hein. Entre nous, on n'utilise plus le mail. Bien entendu, on utilise la messagerie instantanée. Donc là, on a une sorte de coupure. Hein. Donc, il y a une sorte d'Internet universitaire hein, ou professionnel où on passe notre temps du matin au soir à répondre à des mails. Et puis, il y a l'Internet de mes étudiants qui s'envoient des messages instantanés. Deuxième exemple, on a parlé de cette uniformité hein, dans le domaine musical. Mais je veux dire, Internet, c'est aussi, on a évoqué MySpace, un endroit hein, qui permet finalement à des petits groupes rock de Grenoble ou d'ailleurs hein, de rencontrer des gens qui ont exactement le même goût musical qu'eux à l'autre bout de la planète, en Australie, au Canada, et de partir en tournée un été hein, pour rencontrer ces internautes hein, qui ont apprécié la vidéo qu'ils ont mis sur MySpace. Bien entendu, très rarement, contrairement à ce qu'on dit, les médias, ces groupes hein, seront édités hein, par un major, mais par contre, hein, ils se créent une sorte de communauté, dans le sens où Dominique l'expliquait tout à l'heure, hein, une communauté d'amateurs de musique qui se créent de cette façon. Hein, et qui n'aurait pas existé sans Internet. Ce groupe aurait probablement tourné dans le réseau des MJC de sa région, mais là, il peut tourner dans un réseau de MJC mondial, le mot est trop fort, mais qui articule des espaces éclatés dans le territoire mondial. Donc, je dirais, peut-être, moi, la leçon que je voudrais donner, on ne peut plus parler, me semble-t-il, d'Internet de façon générale aujourd'hui. Hein. Et donc, Internet peut faire la révolution, mais il peut aussi ne pas la faire.
Dominique, est-ce que la massification peut conduire au populisme, d'un côté ? Est-ce que la massification peut favoriser une radicalisation sur Internet, de l'autre côté, qui répondrait aussi à la question de la manipulation, d'un côté, puis peut-être encore une fois de la révolution, de l'autre ?
Ben, alors,
même si on ne peut pas parler d'Internet en général.
Oui, je crois que c'est la réponse vraiment juste et importante. C'est effectivement de se dire que c'est quand même un ensemble de choses qu'on réunit de façon très, très, très diverse. Alors oui, moi c'était le risque que je cherchais à pointer, c'est qu'effectivement cette logique un peu vertueuse de ce qui agrège les liens sur Internet, c'est plutôt une vertu délibérative d'évaluation de la qualité qui fait que ce qui nous est proposé dans les classements, ce qui nous est rendu visible est plutôt des choses qui ont été évaluées par les autres, discutées et donc qui vont remonter, est en train de se transformer avec une sorte de viralité qui pourrait être populiste, d'informations de qualité douteuse, etc. Ceci étant, on entend ça sur Internet depuis le début, c'est présent depuis le début. Je pense que ça fait aussi partie, alors effectivement, de choses auxquelles il faut s'habituer, d'une certaine manière. Alors, je dis comme ça, c'est un peu difficile, mais qui est que on est dans un espace dans lequel on publie, un espace d'abondance d'informations dans lequel on publie et puis ensuite on édite. Hein, mais la manière dont on édite, en fait, c'est le travail que font les autres que nous faisons collectivement pour sélectionner et rendre visibles certains contenus. Donc, il y a énormément de zones d'ombre dans Internet, de zones de circulation d'informations douteuses, dangereuses, idiotes, etc. Simplement, bon, vous les tombez. Pour les trouver, il faut quand même les chercher. Hein. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas directement sur votre moteur de recherche ou dans vos consultations habituelles. Enfin, en tout cas, moi, je ne les rencontre pas. Alors, et donc, je crois qu'il y a ces principes d'auto-organisation à l'intérieur du système des liens de l'Internet peuvent nous épargner d'avoir à rencontrer ces difficultés. Et je ne suis pas sûr que les capacités de circulation de ces informations douteuses, enfin, je ne sais pas, on parlait de Thierry Messant ou autre chose comme ça, dans un autre cadre récemment, aient une visibilité plus grande sur Internet, surtout quand les médias classiques viennent en parler. Viennent en parler et faire de la publicité à ces questions. Moi, je voulais dire sur la révolution, il y a quand même une révolution qui est en marche, hein, qui a déjà commencé avec l'Internet, c'est celle de l'accès au contenu et au bien commun, et le fait qu'une grande partie, avec la numérisation, c'est pas Internet, c'est la numérisation, les savoirs, les contenus culturels sont en train progressivement de changer de statut, que les modes d'accès à ces contenus se sont très très largement ouverts et démocratisés, avec des problèmes légaux qu'il faut arriver à régler, mais il y a des solutions de financement qui obligent à re-réfléchir entièrement les modes de répartition de la valeur dans la filière, mais qui font qu'aujourd'hui, moi je le dis comme chercheur, par exemple, c'est une véritable révolution que d'accéder à l'ensemble de la production scientifique mondiale constamment, facilement, etc. Je pense que ces révolutions du savoir, elles ont lieu aussi dans le domaine de la musique. Hein. On parle effectivement des effets d'agrégation qui font que la musique mainstream est très valorisée, mais il y a toute une partie de la musique qu'on ne trouve jamais dans les catalogues et dans les magasins, qui est aujourd'hui accessible sur Internet, qui fait l'objet d'échanges entre les individus et les personnes. Moi, je pense que le niveau musical, de culture musicale de la jeunesse n'a jamais été aussi élevé, le niveau de pratique musicale n'a jamais été aussi élevé. Les scènes musicales françaises sont extrêmement actives, et je suis intimement persuadé que c'est parce qu'ils échangent et qu'ils partagent de la musique sur Internet que ça est rendu possible. Donc il y a quand même des choses qui sont en marche à côté de cette technologie sur ce terrain qui sont importants. Sur la surveillance, la surveillance, ce serait vraiment une question très très complexe, parce que moi je crois qu'il faut dégager deux types de débats importants. La question de la surveillance pas institutionnelle, donc je veux dire l'État et les entreprises, et qui posent effectivement, qui ont accès à des données, qui s'en servent pour faire de la publicité ciblée, toute une série de questions, et il faut les réguler autant que faire se peut, parce que c'est manifestement quand même compliqué. Enfin, les pouvoirs publics ont finalement un pouvoir relativement modeste sur ces questions, mais que la nouvelle surveillance, c'est-à-dire que le nouvel enjeu, du point de vue du sociologue en tout cas, c'est cette surveillance interpersonnelle, c'est-à-dire que on rend public de plus en plus d'éléments d'information qui n'étaient pas rendus publics sur soi, et que finalement c'est le voisin, l'ami, l'amant, le collègue, le patron qui voit une série d'informations sur soi qui n'étaient pas visibles précédemment, parce qu'on a agrégé des publics auxquels on réservait des facettes de notre personnalité qui étaient différenciées précédemment. Mais le point sur lequel je vais insister, alors je pense que c'est une question très importante, qu'elle est très importante au regard du fait qu'il faut éviter qu'Internet, justement, enfin c'est mon grand dada actuellement, devienne un espace public comme les autres, c'est-à-dire que les moteurs de recherche puissent trouver toutes les informations sur tout le monde. Il y a toute une partie des usages sur Internet qui fonctionnent très très bien, et parce qu'ils permettent aux gens d'avoir le sentiment qu'ils conversent dans une sorte de clair-obscur. On est dans un réseau d'amis et d'amis d'amis, mais on n'est pas en train de parler à son patron, à ses profs, à la police, etc. On est dans cet espace-là. Si on devient trouvable grâce à un moteur de recherche de façon évidente, ça pose des questions centrales. La dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est que je crois que les identités que nous construisons sur Internet sont des constructions, qu'elles sont très calculées, qu'elles sont très stratégiques, et du coup pensées, qu'on a la vérité sur les personnes, ou qu'on a des données personnelles, au sens des données personnelles, données sensibles, telles que le définit la CNIL, serait une erreur. C'est-à-dire qu'une grande partie, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'il y a une théâtralisation, il y a une sculpture de soi, il y a une manière de jouer avec son identité, qui fait que nous produisons des signaux à l'adresse des autres. Nous ne produisons pas forcément de la donnée personnelle tout le temps sur Internet, et que l'intimité, au sens de vraiment ce qui serait intime, n'est pas du tout présent. En tout cas, moi, j'ai beaucoup regardé sur les réseaux sociaux et les blogs. Hein, ce qui définirait en propre l'intimité, c'est précisément qu'elle n'est pas rendue publique dans ces conversations et ces échanges identitaires.
Mais quand même, pour regrouper ces questions, puis on répondra à la question sur la propriété intellectuelle dans une minute, mais pour essayer de regrouper toutes ces questions entre vous, là, c'est peut-être ce qui ressort de ces questions, c'est l'idée qu'Internet serait un pouvoir. Alors peut-être pas le pouvoir d'Internet, mais le pouvoir des internautes. Il y a même un livre, il y a quelques années, qui était intitulé « Le cinquième pouvoir », c'est un livre de Thierry Crouzet, qui, dans lequel il disait que les nouvelles technologies redonnent aux citoyens le moyen d'agir. Alors on a beaucoup parlé du moyen d'expression, on a moins peut-être parlé du moyen d'action. Alors est-ce qu'Internet peut donner le moyen d'action aux citoyens? Est-ce que les internautes peuvent agir grâce à Internet? Est-ce que du coup Internet prend un pouvoir particulier?
Moi, j'ai souligné en inauguration qu'on glisse de la représentation à la présence. Je crois que c'est encore un mystère, j'aurais du mal à élaborer cette thèse, mais je crois qu'elle est juste et j'ai envie vraiment de travailler là-dessus. C'est-à-dire, de même que les actes de langage, on s'est intéressé aux effets performatifs de la parole, c'est-à-dire que dire, c'est parfois faire quelque chose, et bien sur Internet, la visibilité, le fait de créer un blog, un site, une expression de soi est une mise en visibilité qui n'est pas sans effet. Et donc, dans le cas des minorités auparavant moins visibles, dans le cas des individus moins publics et qui accèdent à une parcelle de publicité d'eux-mêmes, au sens de l'espace public théorisé par Habermas, c'est-à-dire de monde commun partagé avec d'autres. Donc tout cela n'est pas en termes de représentation, c'est en termes d'action. Je pense que l'internaute est très actif, voilà, et pas seulement techniquement parce qu'il acquiert une compétence technique qui auparavant était moins partagée. Donc le réseau est une invitation à partager la compétence technique, mais au-delà de la compétence technique, il est socialement, politiquement, civiquement actif, et même parfois malgré lui, il est entraîné dans des coopérations. Voilà, il y a une émulation qui vient par le réseau et par cette liaison, cette intelligence collective et connective. Ça, je crois que c'est un glissement de civilisation très intéressant, un tournant de la culture très intéressant.
Alors, monsieur, excusez-moi, à la chemise à carreaux qui a posé la question sur la propriété intellectuelle, est-ce que vous voulez bien juste préciser votre question parce qu'elle est très, très vaste et donc il est un peu difficile de vous répondre en quelques minutes?
Oui, cela intéresse. Je vais plutôt donner un exemple. La démocratie concerne des projets qui peuvent être ceux d'une société savante ou qui peuvent être un projet industriel ou un projet d'une communauté, qui va donc publier ce projet de façon à ce qu'il soit évalué démocratiquement par les gens intéressés par ce projet. Donc on est là dans un vrai débat démocratique. Le projet est une propriété intellectuelle est une propriété intellectuelle de celui qui le conçoit. Les réponses qui sont organisées par différents moyens démocratiques que l'on peut retrouver avec des outils Internet, en utilisant des outils Internet, ces réponses peuvent également constituer des références qui appartiennent à qui. Tout ce qui est produit finalement sur Internet et qui peut être exploité ensuite ou modifié et interprété de façon démocratique doit être évalué sur le plan de la propriété intellectuelle.
D'accord, merci beaucoup. On va pas lancer le débat sur Adopi, on n'aura pas le temps, mais au moins effectivement la question des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle sur Internet. Peut-être Dominique Cardon.
Très rapidement, mais évidemment, ce serait un grand débat. La réponse, je trouve, que donne. Alors effectivement, c'est une définition très autoriste de la propriété intellectuelle est difficile sur Internet. Je pense qu'elle est, elle a un côté et c'est la plupart des débats d'ailleurs se cristallisent là-dessus parce qu'on entre dans une propriété intellectuelle qui est plus collective, hein, je crois. Donc il y a effectivement l'idée à travers les wikis et toute une série de choses qu'il y a des contributions différentes et multiples qui sont agrégées et que donc il faut arriver à redistribuer et maintenir des droits de propriété, mais plutôt sur des collectifs d'auteurs que sur des auteurs individualisés. Ceci étant, je crois que l'initiative la plus riche, je renverrai plutôt à ça sur ces questions sur Internet, hein, c'est ce qui est né autour à la suite d'ailleurs du logiciel libre, dans le modèle du logiciel libre, et qui a été créé par Laurence Lessig, qui s'appelle les licences Creative Commons, qui s'appuie véritablement sur l'idée qu'on peut mettre en partage des contenus et des productions faites sur Internet, tout en gardant un certain nombre de droits sur ces productions. Et alors on va définir avec des différents éléments les droits que l'on souhaite conserver, pas d'utilisation commerciale ou pas de transformation du contenu, etc. Et arriver à les mettre en circulation. Donc je crois que pour précisément sur ces questions de propriété intellectuelle, il y a aussi un modèle de droit et de contrat qui est en train de se construire et qui est assez lié aux propriétés précisément connectiques de l'Internet.
Est-ce qu'on a le temps de prendre encore deux questions? Puisqu'on ne me dit rien, on a le temps. Donc peut-être deux questions, si vous voulez. on n'a pas en conclu.
Bonjour. Donc, la question, c'était de savoir si on pouvait fonder une démocratie ou une meilleure démocratie sur ce que les pères fondateurs avaient voulu d'Internet, c'est-à-dire quelque chose d'anonyme, hormis l'adresse IP, mais qui n'était qu'un chiffre, ou ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec les pseudonymes, ou ce que Dominique Cardon appelait les identités théâtralisées ou sculptées, par exemple. Est-ce qu'on peut fonder une démocratie et un vote, alors que dans l'isoloir et l'identité est certifiée, par exemple? Est-ce que là, la question de la certification de l'identité n'est pas problématique pour ce nouvel espace démocratique?
J'ai le sentiment que c'est une question pour Patrice Plichy.
Alors, effectivement, Internet est né sur un modèle de l'anonymat, mais qui est plutôt un modèle du pseudonyme. Hein, c'est-à-dire que l'anonymat, on ignore complètement mon identité. Sur Internet, on se construit une identité qui est celle du pseudonyme. Une des spécificités de ce monde, c'est que je peux en avoir plusieurs. Hein. Je peux avoir donc des identités différentes en fonction des communautés où je m'investis. Il y a, et là il y a un vrai problème, si sur une même communauté, je me mets à changer d'identité, à prendre un autre pseudo qui me permet d'intervenir dans le débat différemment. Je dirais, votre référence au vote qui est anonyme renvoie effectivement à des structures très réglementées d'une organisation de vote. Hein. Et effectivement, une des grandes difficultés de tous ces systèmes de compteurs sur Internet, c'est qu'effectivement, on peut les manipuler. Hein. On peut revenir avec plusieurs pseudonymes. Hein. En même temps, il y a cette évolution. On a peu parlé des réseaux sociaux ce matin. Il est certain qu'un des grands changements des réseaux sociaux, c'est que j'apparais avec mon identité réelle. Hein. Je mets ordinairement mon nom et ma photo. Hein. Ce qui est un véritable changement dans ce fonctionnement d'Internet. Mais ce à quoi il faut immédiatement ajouter, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que cette identité, je la construis. Hein. Et je crois qu'on est tous, les gens qui observent un peu Internet, et étonnés de voir à quel point les internautes apprennent vite. Hein. On a beaucoup dit sur les réseaux sociaux, les gens sont naïfs, ils ne se rendent pas compte, ils laissent des traces de tout. Bon, peut-être qu'un certain nombre de gens, au démarrage, se sont fait piéger, mais très rapidement, les gens construisent. Les gens savent qu'éventuellement, mon patron pourra peut-être regarder ce que je fais. En tout cas, si je le mets dans mes amis, bon, il y a quand même de vraies chances qu'il regarde. Donc, à ce moment-là, je vais tâcher d'avoir une image positive, de construire une image positive pour mon patron.
Mais Patrice, est-ce que le fait que les identités soient floues, soient mobiles, du fait même du pseudonymat, voire de l'anonymat et du changement de profil permanent, est-ce que pour vous cela participe de l'éclatement de l'opinion publique dont vous parliez tout à l'heure en disant qu'Internet était aussi un agrégateur d'intérêts individuels?
Je crois que ce problème, effectivement, des identités floues, bon, revient à une question qui a été abordée, notamment, je pense, par Sherry Terkel, qui est psychosociologue, pour montrer une des difficultés de l'élaboration du compromis sur Internet dans un débat public, parce que, effectivement, je ne suis présent par Internet aujourd'hui qu'avec une toute petite partie de mon identité. Et on sait bien que c'est plus facile d'élaborer un compromis dans un débat en face à face que dans un débat simplement par l'écrit. Hein, ces fameuses guerres d'injures qu'on trouve quand même beaucoup sur Internet, y compris parfois dans le milieu professionnel. Enfin, nous connaissons ça dans le monde académique, par exemple, où parfois...
Non, jamais.
Je suis tout à fait étonné de voir que le fait de s'adresser à quelqu'un que par l'écrit renforce effectivement ces guerres d'injures, c'est-à-dire cette difficulté à trouver un compromis. C'est plus difficile de dire à mon voisin « t'es un con » en le regardant dans le blanc des yeux que de l'écrire sur Internet.
Attendez, on va vous donner un micro.
Je voudrais savoir les frontières d'Internet, c'est qui?
Les frontières d'Internet?
Oui, son inventeur.
L'inventeur. D'Internet ou du web. L'inventeur du web s'appelle Tim Berners-Lee. L'inventeur d'Internet, ça remonte il y a 50 ans, mais c'est ARPANET. C'est un outil de militaire américain, donc le nom de l'inventeur lui-même, c'est la NASA, me dit mon voisin.
Non, c'est pas la NASA, mais de toute façon, comme dans toutes les technologies, il n'y a pas d'inventeur. Il y a un collectif d'inventeurs, et puisqu'on posait la question de la propriété intellectuelle, ce qui est quand même très intéressant dans l'histoire d'Internet, c'est que il n'y a aucun brevet d'Internet. L'ensemble des logiciels de base d'Internet sont des logiciels libres. Donc on est dans un processus qui a été très largement élaboré dans le monde académique, qui est un processus vraiment de libre. Un processus, c'est la construction d'un bien commun collectif, d'abord au monde académique, et ensuite qui a été mis à disposition de tous, avec effectivement des financements militaires, mais plutôt dans un modèle où aux États-Unis, la recherche de base est financée par les militaires qui se disent on pourra peut-être en tirer des avantages, mais il n'y avait pas d'objectif direct de type militaire.
Mais je crois qu'on va conclure. Alors peut-être que Daniel Bougnou, vous aviez envie de dire un mot de conclusion, je crois.
Chacun peut en dire trois, mais très brièvement. clore provisoirement. L'idée de révolution qui hante certains dans cette salle, ce mot nous avons appris à l'employer de façon moins grandiose. Parlons d'évolution et surtout soyons très sensibles aux évolutions. C'est-à-dire Internet nous change. De fait, il ne faut pas raisonner le nouveau avec les termes de l'ancien. Ça me paraît fondamental. Donc Internet apporte des constructions et c'est vrai que ça nous construit dans tous les sens. C'est-à-dire ce médium, encore une fois, c'est mieux qu'un média, c'est un médium. Et le médium, c'est un environnement qui nous pétrit, qui nous pénètre en permanence. Nous avons avec Internet des relations d'individu à environnement. C'est-à-dire des relations à la fois un peu inconscientes, procédurales plus que déclaratives. On n'en a pas conscience, on ne sait pas les formuler. Et en même temps, ça nous travaille. Nous sommes pénétrés, traversés. La notion de délibération, elle est retravaillée par Internet. La notion de personne, elle est tout à fait travaillée quand on dit le narcissisme, l'individu, l'ego sur Internet. Mais ces notions changent avec Internet. La personne est cubiste, elle est facettée, elle est feuilletée, elle est à la carte, elle est selon les clics, etc. La notion de scène délibérative, la scène démocratique est profondément dépolarisée, vole en éclats sur Internet, et pourtant il y a encore de la délibération, de la visibilité et donc entre guillemets des scènes. Mettons tout cela au pluriel et surtout rappelons-nous que la démocratie c'est une raison divisée, c'est l'espace de la raison divisée et que le meilleur traitement quand la raison se divise, ce sont les réseaux précisément. Donc je crois que c'est un espace rationnel, Internet, très rationnel grâce au la proximité entre les raisons et les réseaux. Donc essayons de penser selon et avec et par les réseaux.
Un petit mot de Dominique, un petit mot de Patrick, alors, pour que ce soit égalitaire.
C'était une très belle conclusion. Moi, si j'avais à dire un mot, mais qui est beaucoup moins brillant que Daniel, mais c'est vrai, d'insister sur l'idée que quand on a parlé de régulation et de l'avenir d'Internet, une grande partie quand même des choses se joue autour des individus. Moi, je crois que Internet a quand même développé la vigilance critique dans notre société. Alors, avec parfois peut-être les excès de ces critiques, notamment vis-à-vis des questions de représentation politique, ces ordres-là, et que vis-à-vis de la privacy, vis-à-vis des questions de populisme, vis-à-vis des modèles que nous allons choisir pour hiérarchiser l'information sur Internet, puisque c'est nous, comme internautes, qui, par nos pratiques, produisons ces propres métriques de valorisation des contenus, c'est quand même les individus qui sont au cœur du système. Et donc, je crois qu'il y a une dimension d'autorégulation et de critique qui est plutôt constructive sur Internet. Donc, je renvoie juste, par exemple, sur les débats sur la privacy, au fait qu'une grande partie de ces débats, aujourd'hui, c'est ni la CNIL, ni les États qui agissent fortement sur la transformation des plateformes, qui sont effectivement des acteurs qu'il faut arriver à convaincre d'être plus vigilants et protecteurs, mais c'est la mobilisation des internautes qui a le plus d'efficacité.
Patrice.
Oui, juste un mot alors complémentaire. Je me rangerais bien effectivement à l'expression de Daniel en disant qu'on est cubiste sur Internet, ce qui me paraît une jolie expression. Mais non, un mot, je suis d'accord avec ce que disait Dominique, mais je pense qu'il faut immédiatement ajouter que malgré tout, la question de la régulation et d'une vraie régulation législative se pose malgré
mais
tout.
Mais comment la faire
hein. Alors, la vraie difficulté, c'est que cette régulation ne peut être que mondiale. Mais si vous voulez, j'en prendrai juste un exemple qui moi m'intéresse beaucoup, qui est la question de Google. L'algorithme du moteur de recherche de Google est un algorithme secret pour une raison qui se légitime, c'est-à-dire que si on connaît tous l'algorithme, on va pouvoir faire remonter effectivement le classement de nos sites. En même temps, il y a quand même quelque chose de très inquiétant. Qu'une institution qui finalement organise l'accès à une bonne partie de notre savoir soit complètement secrète. Donc je pense qu'on devra se poser le problème d'une régulation mondiale sur Internet et par exemple sur le moteur Google.
Alors la parole au profane ou à la profane pour finir, pour ma part... J'aurais envie de vous dire à tous, n'ayez pas peur, d'autres l'ont dit, n'ayez pas peur, et surtout, j'espère qu'on a contribué à démonter un certain nombre d'idées reçues, mais surtout, si vous en avez la possibilité, parce que c'est évidemment une condition préalable, mais si vous en avez la possibilité, pratiquez, essayez, cherchez à comprendre avant de juger. Voilà, donc n'ayez pas peur, essayez.
Yes we can, alors.
Yes we can. Merci à tous.